IDFM Radio Anguin, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Il est 18h passé de 2 minutes, c'est Franck avec vous. Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 18h à 19h pour l'émission À toi les étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. La marraine d'À toi les étoiles, Daniel Briot, astronome à l'Observatoire de Paris, et le parrain d'À toi les étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, ainsi que moi-même, Franck. Vous souhaitons la bienvenue pour cette 109e émission et dernière de l'année 2013, bien oui, puisque nous sommes au mois de décembre. Et justement, c'est un anniversaire, puisque figurez-vous que c'était le 15 décembre 2004 qu'a lieu la première émission d'À toi les étoiles. Donc elle fête ce mois-ci sa 9e année d'existence. Et il y aura aussi d'autres anniversaires, on va en parler dans un instant. Sachez tout d'abord que le thème de cette 109e émission ce soir est des objets astronomiques fascinants, les cadrans solaires. Et pour en parler avec nous, je reçois par téléphone Alain Ferreira. Monsieur Ferreira, bonsoir.
Bonsoir.
J'ai également Gérard Oudenot qui est tout comme monsieur Ferreira, membre de la commission des cadrans solaires de la Société astronomique de France. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être présent pour cette émission À toi les étoiles. Et avant de rentrer dans le sujet des cadrans solaires, eh bien, je vais ouvrir une petite parenthèse, comme je l'ai fait déjà le mois dernier. Vous vous souvenez, on a parlé de la comète Ison. Alors là, on peut parler rapidement de la comète Ison, hein. Bon, si vous avez suivi l'actualité, vous savez que quand elle est passée au plus près du Soleil, eh bien, elle a été en partie détruite. Il reste qu'un reliquat qui n'est pas visible au télescope, qui n'est visible qu'au télescope, comme quoi, comme disait monsieur Dorisundiram, lorsqu'il est intervenu dans l'émission le mois dernier, les comètes sont vraiment imprévisibles, la preuve en est. Mais pour cette parenthèse, aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de la comète Ison, mais pour parler d'un anniversaire, je vous le disais il y a un instant, puisque sachez qu'il y a 10 ans, eh bien, a été lancé un site qui s'appelait PIF News, à l'époque, qui s'appelle aujourd'hui CosmoPIF, et qui fête donc son 10e anniversaire. On a Pierre-François Mouriot, qui est avec nous au téléphone. Monsieur Mouriot, bonsoir.
Bonsoir Franck.
Qui est un habitué de cette émission À toi les étoiles. On compte plus le nombre de participations. On va parler en quelques mots, avant de parler des cadrans solaires, du CosmoPIF. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous parler, monsieur Mouriot, de la genèse du projet ?
Alors le CosmoPIF, effectivement, il y a 10 ans, enfin même avant d'être le site PIF News, comme vous l'avez dit Franck, c'était une newsletter. Il se trouve que je travaillais au sein du réseau Planète Science et que je quittais Planète Science pour rejoindre le musée de l'air et de l'espace, donc j'avais pas mal de contacts dans les milieux associatifs et en tout cas de passionnés d'espace, et j'avais mis en place une petite newsletter qui était une liste des rendez-vous, des bons plans, des petits trucs trouvés sur internet que je diffusais de manière un peu aléatoire. Et puis j'ai un ami informaticien savoyard qui m'a proposé d'en faire un site. Alors au départ je trouvais pas l'idée de faire un site d'information pertinente, puisqu'il y avait déjà d'autres sites qui existaient. J'avais quand même l'idée de faire quelque chose me séduisait assez, donc j'ai un peu réfléchi, et puis je me suis dit que les rencontres que je faisais dans le cadre de mes activités pourraient peut-être intéresser d'autres personnes, et donc j'ai eu l'idée de mettre en place une série de portraits avec toujours le même questionnaire. Les gens sont invités à répondre aux mêmes questions qui leur permettent de se présenter, de raconter leur parcours spatial ou non, quand c'est des passionnés simplement, puisque je fais aussi appel à des non-professionnels, une série d'anecdotes, et puis choisir des photos, des objets préférés et évoquer le futur qui ferait rêver ces invités.
Alors comment ça s'est développé en 10 années, depuis la création en 2003 jusqu'à maintenant en 2013 ?
Alors au départ je suis parti sur les chapeaux de roue sans savoir combien de temps ça durerait, à vrai dire. D'ailleurs je sais toujours pas combien de temps ça va durer, ça fait 10 ans, on me souhaite encore 10 bonnes années, on verra, moi je continue. L'idée au départ donc c'était un invité par semaine. Avant de le lancer j'ai fait quelques tests. Il y a Jean-François Clairvoy, l'astronaute, qui a répondu tout de suite, donc je l'ai mis en numéro 1. Et puis voyant que j'avais une quarantaine de personnes d'avance, je me suis lancé dans l'aventure, et puis petit à petit, après, la galerie s'étoffant, le site est devenu lui-même sa propre carte de visite. Et puis je suis allé au culot, contacter d'autres personnes que je connaissais pas forcément, et puis ça, de temps en temps ça mordait, et puis je me suis retrouvé comme ça avec des personnalités assez prestigieuses, en tout cas des profils très très variés.
Des souvenirs, vous en avez ? Les meilleurs souvenirs qu'on pourrait énumérer ?
Alors c'est difficile, hein. Quand on préparait l'émission, je vous disais qu'en 10 ans et bientôt 400 interviews, des souvenirs, il y en a pléthore. Des noms, il y en a. La limite, de toute façon, tous les intervenants sont intéressants. Ce qui est étonnant, c'est que parfois, c'est pas forcément les professionnels qui ont les réponses les plus surprenantes ou les plus pertinentes. Il y a des fois des gens qui sont simplement observateurs, passionnés dans leur coin, qui font des remarques ou qui ont des choix très intéressants. En tout cas, je disais Jean-François Clairvoy qui m'a fait l'honneur d'être ma première star. Ça a commencé très très fort. C'était un chouette souvenir. Et puis sinon, au culot, contacter l'astronaute sud-africain Mark Shuttleworth qui a répondu avec une grande simplicité et une très grande rapidité. Demander à la société interplanétaire britannique si Arthur Clarke était joignable et recevoir les réponses par mail de Clarke un peu rapide parce qu'il commençait à être un peu fatigué. Mais en tout cas, voilà, j'ai pu attraper Arthur Clarke un peu avant sa mort. Donc ça, c'est des grands souvenirs. Et puis ça permet aussi, comme j'aime bien alterner, je vous disais, professionnels et amateurs, de temps en temps faire des rencontres un peu que j'imaginais pas. Et j'aime beaucoup mélanger les gens, donc ça m'a permis de rencontrer des artistes comme Michel Granger, le dessinateur Manchu, ou des groupes de rock même, hein, le groupe FL, le groupe Dundota, qui seront mes prochains invités.
D'accord. 10 ans, et comme vous le disiez un instant, on vous souhaite de durer encore 10 ans. Alors, est-ce que vous avez des projets pour le futur ?
Des projets, j'ai toujours des demandes dans la nature. Il y a plus de gens qui sont sollicités que des réponses qui rentrent, comme on dit. Donc c'est aussi pour ça que je suis passé un peu à un rythme cette année de une fois tous les 15 jours, parce que la mise en place d'un site, la relance des gens, la mise en forme des interviews, ça prend quand même pas mal de temps. Donc plutôt que de m'essouffler et tout arrêter, j'ai préféré lever un petit peu le pied. Enfin, ce qui fait quand même 22 invités en 2013, donc ça reste un rythme intéressant. Oui. Donc continuer toujours des rencontres. Là, la semaine prochaine, samedi en l'occurrence, ça sera mes 400 et 401e invité, les membres du groupe Dundota, et puis j'espère faire d'autres rencontres, découvertes. Il y a eu 500 astronautes qui ont volé, donc il y a plein de possibilités encore.
En effet, oui. Alors on rappelle l'adresse du site pour les auditeurs qui souhaiteraient aller voir le Cosmopif.
Alors le Cosmopif, tout simplement, c'est www.cosmopif.com. Mais on peut trouver aussi régulièrement des informations dès qu'il y a un nouvel invité chaque semaine. Il y a une information sur Facebook, donc et puis de temps en temps il y a des petits l'actualité des anciens invités qui se retrouvent sur cette page Facebook. Donc il suffit de taper sur Facebook tout simplement le mot Cosmopif et il y a une seule page qui sort. C'est la bonne.
Alors je rappelle aussi que vous êtes président de l'association Histoire d'Espace et on rappelle que vous êtes passé d'ailleurs en début d'année pour parler du livre Alexandre Ananov, l'astronaute méconnu, qui est toujours disponible.
Oui, oui, complètement, qui marche bien. C'est une très bonne surprise puisqu'on partait sur un petit tirage au départ un peu entre passionnés. On espérait entre 50 et 100 ventes. Et puis on a dépassé les 400 en un an, donc c'est très bien. Et puis on a surtout des retours des critiques qui sont très très bonnes. Donc ça, on a le sentiment d'avoir et rendu hommage à un personnage oublié et en plus avoir fait un travail visiblement intéressant.
Alors comme en plus c'est Noël dans quelques jours, et bien pour donner des idées cadeaux, hein, c'est une bonne idée cadeau ça de mettre Alexandre Ananov, l'astronome méconnu, sous le sapin. Merci Pierre-François Mouriot, parce que je sais que vous avez un emploi du temps très chargé, et merci de m'avoir permis de vous poser quand même quelques questions.
Mais c'est avec plaisir, à très bientôt.
Au revoir. Nous poursuivons cette émission à toi les étoiles. Nous sommes toujours avec nos invités Alain Ferreira et Gérard Houdonneau.
Oui,
ils sont toujours là, voilà. Oui. Merci d'être présent pour cette émission à toi les étoiles. Donc on avait fait cette petite parenthèse sur le Cosmopif. Et là on va parler des objets astronomiques fascinants, les cadrans solaires. Alors tout d'abord, expliquez aux auditeurs ce qu'est un cadran solaire. Qui veut prendre la parole ? C'est Monsieur Ferreira qui voulait parler en premier ?
Je voulais simplement dire que C'est un objet qui paraît vraiment très fruste, quoi. Je veux dire qu'il y a, il y a une tige avec qui donne une ombre, et puis voilà, et puis on a l'heure. Enfin, on est censé avoir l'heure. Hein. Et donc c'est à peine si les gens qui voient un cadran solaire dans une ville prêtent un œil, parce que bon, quel intérêt, c'est vraiment quelque chose d'ancien. En plus, ça ne donne jamais l'heure de la montre, et on passe. Eh bien, ils ont bien tort, parce que derrière ça, il y a vraiment, un instrument d'une extrêmement une grande complexité, très difficile à réaliser pour les calculs, et il y a toujours plein de mystères. Le fait de transformer l'heure de solaire en heure de la montre, la devise qui est écrite, le tracé du cadran, ça nous donne. Bon, rien qu'un cadran, ça nous donne déjà où on est. C'est-à-dire, il suffit de se mettre dans le prolongement du style et on a l'étoile polaire. Donc, aussitôt qu'on voit un cadran, à condition qu'il soit bien construit, on sait déjà où on est, si vous voulez, comment s'orienter, vous voyez. Donc, et puis, surtout, c'est un objet pédagogique vraiment, vraiment fantastique.
Le style, c'est cette tige.
Oui. C'est cette tige qui donne l'ombre, qu'on pourrait appeler l'axe, si vous voulez, ou voilà, c'est son nom, c'est le style.
D'accord. Et donc, suivant l'ombre du soleil, on a l'heure solaire.
On a l'heure solaire, exactement. Voilà, l'heure solaire locale, c'est-à-dire de l'endroit où on est. Parce qu'il y a un certain nombre de corrections, alors les gens ajoutent une heure, deux heures, ils savent pas trop s'ils font retirer, s'ils font ajouter. En fin de compte, il y a plusieurs corrections à faire. Il y en a une qui est complètement astronomique, si vous voulez, qui doit nous donner le temps moyen, parce que en astronomie, le cadran solaire, c'est un objet astronomique. Et donc, il donne pas l'heure de la montre, qui est une heure mécanique. Et puis, il y a un autre problème aussi, c'est que, fonction de l'endroit où on est, on a un décalage horaire qui est dû au méridien de référence, qui a été longtemps Paris, et puis qui est devenu, depuis 1884, qui a été devenu Greenwich. Bon, et puis il y a une troisième correction que tout le monde connaît, c'est la fameuse heure d'hiver et les deux heures d'été. Voilà. Et quand on fait l'addition de toute cette correction, normalement, quand un cadran est bien construit, eh bien, il doit donner l'heure à la minute près.
D'accord.
Ah oui, c'est un cadran qui fait un mètre par un mètre, c'est la tolérance que l'on donne. Bon, souvent, c'est à une heure près.
Oui.
Mais il y en a. Il y a pas mal de cadrans qui donnent l'heure très très précisément.
Monsieur Oudonneau, vous aviez des précisions à donner sur ce qu'a dit Monsieur Ferreira ?
Non, ça me paraît tout à fait bien. Je résumerai en disant qu'un cadran solaire, c'est tout objet qui utilise l'ombre portée par le soleil pour déterminer l'heure. Et en fait, bon, il y a même, ça peut être plus compliqué que ça, il y a des cadrans qui fonctionnent sans soleil. Hein, parce que, par exemple, la lumière qui nous arrive est une lumière polarisée. Donc il existe un type de cadran qui permet d'avoir l'heure sans avoir le soleil. Bon, ça simplement pour dire qu'il existe une multitude de cadrans solaires. Et à chaque fois qu'on a fait un progrès technique, on a généralement fait un ou plusieurs cadrans solaires qui allaient dans ce sens.
On va parler maintenant, si vous voulez bien, de l'aspect historique des cadrans solaires, parce que, comme vous avez dit, c'est ça fait longtemps que ça existe, hein, les cadrans solaires. Est-ce qu'on a une idée de la date du premier cadran solaire ?
Alors, on en a trouvé un dans une tombe égyptienne, qui date du 15e siècle avant Jésus-Christ.
Hein. D'accord.
Bon, alors, ce qu'il y a, ça ressemble à un L. Vous voyez, un L un peu épais. La petite branche du L portait ombre sur la grande branche, et c'est ça qui donnait l'heure. Le seul problème, c'est qu'à l'époque, la notion d'heure n'existait pas. Donc, c'est simplement des points qui sont en progression arithmétique, et bon, ben, ça donne quelque chose de pas trop mauvais, hein. Plus récemment, on a trouvé un autre type de cadran qui, lui, ne donnait pas l'heure, mais donnait une idée de la date. C'était à l'époque du bronze, donc il est encore plus vieux. Il se trouve, disons, au Mont des Merveilles, en pleine montagne. Hein.
Mais alors, vous dites que, qu'à cette époque-là, on n'utilisait pas l'heure, donc mais c'était quand même un repère pour savoir à quel moment.
Voilà, c'était un repère.
Voilà, pour savoir à quel moment.
L'heure n'a commencé à être à peu près définie qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ. Hein.
Eh bien, écoutez, on va laisser les auditeurs réfléchir sur tout ce qui s'est dit par rapport au cadran solaire. Pendant ce temps-là, on va marquer une pause musicale. Et je vous propose tout de suite Drake avec un très joli morceau qui s'intitule « Hold on, we're gone home ». Et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission « À toi les étoiles », toujours sur les cadrans solaires. À tout de suite.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios. IDFM sur 98FM.
Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission À toi les étoiles. Je vous rappelle que le thème aujourd'hui, c'est des objets astronomiques fascinants, les cadrans solaires, avec comme invité Alain Ferreira et Gérard Oudeneau, qui sont tous les deux membres de la commission des cadrans solaires et de la Société Astronomique de France. Alors, j'ai omis une chose en début d'émission. Je fais toujours ça d'habitude quand il y a des invités qui font partie d'une association. C'est de décrire en quelques lignes l'association. Alors j'espère que le président de la Société Astronomique de France, Philippe Morel, ne va pas me tirer les oreilles parce que j'ai fait ce petit oubli. On va rectifier tout de suite. Donc lequel de vous deux pourrait décrire en quelques mots la Société Astronomique de France et plus particulièrement bien sûr la commission des cadrans solaires?
Il y en a un qui commence sur la société puis l'autre qui continue sur
la commission. On va faire comme ça.
Ouais. La Société Astronomique de France, elle a été créée par Camille Flammarion en 1887. Hein. Donc c'est quelque chose de, c'est une société très ancienne. Hein. Je sais pas trop combien il y a de membres, mais il y a des commissions. Alors il y a des commissions, la commission du Soleil, la commission des cadrans solaires, bien sûr, la commission des météorites, la commission de la cosmographie et cosmologie. Il y a énormément des commissions des planètes. Voilà. Alors, ce qui est passionnant dans cette société, c'est que on s'intéresse à un thème très très particulier, on écoute bien sûr, et puis au bout d'un moment, eh bien on intervient, vous voyez, c'est-à-dire que c'est la réunion d'amateurs et de professionnels. Et donc il y a des professionnels de l'astronomie qui sont là, et puis il y a des amateurs, et non seulement le dialogue se fait, mais souvent les amateurs apprennent des choses aux professionnels, vous voyez, c'est surtout par exemple dans la commission d'histoire, vous voyez, la commission d'histoire que je fréquente assez régulièrement, et ben c'est l'histoire de l'astronomie, c'est quelque chose de vaste, quoi. Et un astrophysicien n'est pas particulièrement des connaissances particulières, poussées des fois sur l'histoire. Et alors quant au cadran solaire, alors là c'est un champ tellement vaste pour tout le monde, et là il n'y a quasiment pas de professionnels du cadran. Et donc là je laisse Gérard de parler de la commission.
Bon, alors la commission des cadrans solaires, elle a été créée en 1972 à la suite d'un appel d'offres, si on peut dire, de celui qui en a été par la suite le premier président, hein, c'est Robert Sagot. Et elle comprenait quelques membres au départ, hein, puisque les créateurs ont été 5 ou 6, hein, c'est pas. Et par la suite, elle est devenue de plus en plus vaste, et aujourd'hui, elle compte à peu près 300 personnes. Hein, donc c'est vraiment une société, une commission qui travaille beaucoup. Et dans cette commission, eh bien, chacun s'intéresse à ce qui l'intéresse plus particulièrement, et donc il y a un travail important qui s'y fait. L'avantage du cadran solaire, c'est qu'on peut le voir sous des tas d'angles. Hein, on peut le voir sous l'angle mathématique, sous l'angle technique, sous l'angle poétique. Il est à la croisée des chemins. Hein, il se réunit là des tas de gens qui ayant des opinions totalement différentes. C'est assez passionnant. Hein.
En effet. Eh bien voilà, donc pour cette petite description, alors on continue bien sûr sur les cadrans solaires. On a parlé tout à l'heure de l'aspect historique et vous avez évoqué des cadrans solaires un peu spéciaux et notamment en préparant cette émission, on a parlé de cadrans solaires pour les aveugles. Alors ça c'est curieux, j'aimerais qu'on en parle un peu plus en détail.
Oui, bah c'est un petit peu anecdotique, hein, je veux dire, vous voyez, par exemple, la commission des cadrans solaires a répertorié à peu près 33 000 cadrans solaires, avec sur chaque cadran, il y a une fiche. Mm-hmm. Donc vous voyez un petit peu le travail. Bon, là, on part d'un de ces cadrans-là. Hein.
Oui.
Alors, bon, c'est une histoire très très amusante, très très curieuse. C'est au XVIIIe siècle, exactement en 1788, un nommé Jacques Ozanam a écrit un livre qui s'appelait « Récréation mathématique ». Alors, c'est un livre, comme son nom l'indique, hein, c'est-à-dire que on pose des questions et puis on essaye d'y répondre, voilà, et c'est dans tous les domaines scientifiques. Et y a une partie qui est consacrée au cadran solaire. Et Ozanam, bon, dans son texte, indique la possibilité de faire un cadran solaire à partir d'une boule qui va être chauffée, et il y aurait des barres de l'autre côté, et ce serait la barre fonction de l'orientation du soleil, il y aurait des barres qui seraient beaucoup plus chauffées l'une que l'autre, voilà. C'est une idée, et puis ça s'est jamais fait. Et ça s'est fait il n'y a pas très longtemps, disons qu'il y a, une quinzaine d'années à peu près, par un nommé Claude Guichetot, qui a fait ce cadran à partir, bon, excusez-moi de l'humour, hein, à partir d'une boule de voyante. Alors, il a pris cette boule, il a découpé des dents de râteau, et il les a disposées un petit peu tout autour, vous voyez, voilà, avec un système de... Et puis, ça marche, il suffit de mettre les doigts, et on compte le nombre de barres qui correspondent chacun à une heure, et la plus chaude indique l'heure. Bon, sauf qu'il y a un petit problème, c'est que, à part au point de vue, bon, il en a fait deux, quoi, comme ça, mais il n'y en a jamais eu d'autres, parce qu'il s'est aperçu qu'en été, on était brûlé au deuxième degré.
Ah oui, quand même, oui, effectivement. Ah,
oui. Mais ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est qu'on lit un livre qui est du XVIIIe siècle, et à partir de là, on réalise quelque chose, vous voyez, ça c'est étonnant, voilà.
Ouais.
Mais bon, ça a pas donné suite, quoi. C'est quand même. Alors après, il a imaginé que ces barres s'éloignaient de manière à approcher tout doucement la partie chaude, quoi. Voilà, c'est assez amusant.
Oui, l'anecdote est amusante, en effet.
Ouais.
Il y a quand même, il en existe quand même un autre qui se trouve au musée des Cinq Sens à Nantes, et celui-là utilise des moyens techniques. Disons un peu plus évolué, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque heure est déplacée. Le cadran ressemble à un cylindre, à une partie d'un demi-cylindre. Et dans ce demi-cylindre, pour chaque heure, on va orienter une fente dans le sens du soleil. Et donc, la lumière va pénétrer là-dedans. Elle va chauffer, mais pas suffisamment. Donc, il y a un système électronique qui va l'amplifier, et derrière, il y aura des plots qui seront chauffés, mais à une température raisonnable, hein, pour ne pas donner les mêmes problèmes que le précédent.
Oui.
Et donc, on peut avoir, les non-voyants peuvent avoir l'heure comme ça sans problème.
Effectivement, oui, c'est une anecdote très sympathique. Alors j'ai des messages qui me sont venus par internet, hein, parce que je vous rappelle que les auditeurs peuvent réagir en direct durant cette émission sur le www.idfm98.fr, rubrique message live. Et j'ai Daniel qui me dit, il me semble qu'il existe des cadrans solaires qui marchent avec la lumière de la Lune.
Oui. Il y a eu toute une série d'articles sont parus là dans l'astronomie là-dessus. Il y a eu trois séries d'articles.
Mm-hmm.
C'est vrai parce que, mais c'est très problématique. Hein. C'est très problématique parce que si vous voulez, quand on est en pleine lune, donc le soleil est opposé à la lune,
Oui. Donc
il y a 12 heures de décalage.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Donc c'est assez facile. Par exemple, quand vous lisez une heure de l'après-midi, c'est qu'il est une heure du matin. Voilà.
Ah oui, d'accord, ok.
Ça va.
Donc ça donne l'heure la nuit, quoi, en fait.
Voilà, la pleine lune.
Mmh.
Et bien sûr, Entre la nouvelle lune et le premier quartier et le dernier quartier à la nouvelle lune, il y a passé, ça n'éclaire pas assez.
Oui.
D'accord.
Oui, oui, bien sûr.
Le problème, c'est que la lune, elle a des mouvements extrêmement complexes. Je veux dire qu'elle, elle tourne pas dans le même plan que le plan Terre-Soleil.
Oui.
Donc elle est un peu au-dessus, un peu en dessous. Elle a des mouvements un peu particuliers. Ce qui fait qu'en fin de compte, on avait Monsieur Denis Savoie, qui a longtemps été le président de la commission des cadences solaires, a fait un calcul et il donne plus ou moins 20 minutes d'erreur. Donc bon, ils existent ces cadrans, ils existent. Il y en a, donc ils sont toujours composés avec voilà, quand on est au premier jour après la pleine lune, il faut rajouter ou retranscrire
48 minutes,
tant de minutes, etc., etc. Et pour chaque jour, on a ce code. Mais on a quand même une erreur de, on peut avoir des erreurs de 20 minutes. Et comme je vous ai dit, qu'on tolère la minute d'erreur. Donc bon, c'est pas voilà, mais ils existent des fois il y en a j'en connais quelques-uns qui sont magnifiques, hein, ils sont très très beaux.
Parlons maintenant des devises, puisque vous l'aviez évoqué tout à l'heure en début d'émission, c'est vrai, on voit souvent les cadrans solaires sont accompagnés de devises.
Oui, je veux bien en parler parce que alors les devises elles sont quasiment toujours liées, disons, au propriétaire de la maison qui a fait son cadran. Donc il essaye de faire un raccourci en une phrase, un peu de sa vie, quoi. Hein. Alors, en plus, comme le cadran solaire, est, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un objet éminemment scientifique, eh bien on utilise la langue des sciences qui est le latin. Donc c'est normal qu'on utilise le latin. Mais ça fait quand même un mystère de plus pour ceux qui ne lisent pas le latin. Hein. Et puis, c'est lié aussi à l'édifice sur lequel ils sont, vous voyez ? Alors, je vous donne des exemples.
Oui.
Alors, vous avez par exemple le Palais de Justice à Paris, donc un très très beau cadran en pierre. Donc, ora fugit stat jus, donc ça veut dire la justice ne varie pas avec le temps, d'accord ? Alors, j'en donnais un autre qui est un peu... J'aime bien. L'ancien, enfin, maintenant c'est plus l'hôpital, hein, l'hôpital Laennec. Donc à l'hôpital Laennec, je vais pas vous lire la phrase en latin, mais elle dit, hélas, cette heure que tu regardes est peut-être celle de ta mort. Donc, vous imaginez que dans l'hôpital, c'est celui qui prend un petit peu l'air, qui regarde ça.
Oui.
Bon, on a peut-être intérêt qu'ils connaissent pas le latin, hein, ça doit bien le démoraliser. Mais on est quand même dans un hôpital.
En effet, oui.
Bon. Il y en a une autre que j'ai vue dans les Hautes-Alpes. Augusta, père Angusta. Ah, hein, il y a un jeu de mots. Bon, je me suis fait traduire. Ça veut dire la réussite par les voies étroites. Je rentre, c'est un restaurant, je rentre, je dis, mais pourquoi vous avez utilisé cette devise dont la signification est ceci ? Elle me dit, la dame, mais si vous saviez les difficultés qu'on a pu avoir pour mener à bien cette entreprise, qu'est-ce qu'on a eu comme difficulté ? Il n'y avait pas une autre devise qui pouvait nous aller que celle-là. Bon, etc. Je veux dire, c'est un sujet vraiment passionné. Et puis, il y en a des très, très belles. Alors, je vous en dis une dans les Hautes-Alpes, dans le Queyras, le fameux Queyras, pays des cadrans solaires. Je mesure le temps, image mobile de l'immobile éternité. Magnifique.
Oui.
Une autre que j'adore, c'est, qui est toujours dans le Queyras, en avoir trop, tu le plaisir d'en avoir assez.
Oui.
Bon, j'en dis pas plus, quoi. C'est seul le temps est perdu dont l'amour est absent. Bon, alors il existe un livre aux éditions Manuscrits Université qui s'appelle Paroles de Soleil, qui a été écrit par une dizaine de membres de la commission des cadrans solaires sous l'égide d'Olivier Escudé. C'est vraiment un alors tout a été traduit. Hein. Bon, il y en a en français. C'est uniquement les devises françaises. Mais il y en a dans toutes les langues en France. Il y en a même en breton, il y en a en basque, il y en a en grec, en latin. Il y en a. C'est vraiment fantastique. Voilà, je laisse la parole.
Oui, Monsieur Oudouno, quelque chose à dire sur.
Je vous donnerai simplement ma devise favorite. C'est carpe diem, profite du jour.
Ah oui, qui fait penser au film Le Cercle des Poètes Disparus, un très beau film d'ailleurs. Eh bien, c'est tout ce qu'on pouvait dire, enfin c'est tout, il y a beaucoup de choses à dire, mais en ce qui concerne les devises, je veux dire, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter sur les devises ?
Il y a tellement de devises, on pourrait faire une émission.
Oui, oui, oui.
Non, c'est tout pour le moment.
D'accord, c'est tout pour le moment.
Je vais peut-être prendre un petit thème tout de suite.
Oh oui, allez-y. Hein.
On va parler dans le, si vous, c'est dans le, comment dirais-je, aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, je reviens de des antiquaires du Louvre. Il y a une exposition chez un vendeur qui s'appelle Delalande. Donc c'est facile à trouver. Hein. Il y a 150 cadrans exposés du 18e siècle. C'est une pure merveille. Vous allez là, vous les regardez un par un et vous vous demandez comment ça marche. Vous verrez qu'ils sont quasiment tous différents. C'est bon, moi j'en connais quand même quelques-uns. J'en ai découvert que j'avais jamais vu. C'est une exposition fantastique, vraiment. Alors c'est une toute petite pièce, hein, mais allez voir ça. Il y a des cadrans qui sont en argent, en or. Enfin, c'est fascinant, en ivoire. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Voilà.
Voilà. Alors justement,
l'actualité.
Les cadrans solaires différents, parce que c'est vrai qu'ils ont différentes formes, et bien vous apportez de l'eau à mon moulin, parce que c'était sur ce thème que je voulais rebondir, mais auparavant, on va remarquer une nouvelle pause musicale avec Raled, C'est la vie, et on se retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission À toi les étoiles, toujours consacrée aux cadrans solaires.
IDFM, 98 FM, toujours plus de proximité pour vous. Pour vous.
Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission À toi les étoiles. Je vous rappelle que le thème de cette dernière émission À toi les étoiles de l'année 2013, c'est des objets astronomiques fascinants, les cadrans solaires. Et ô combien fascinants, puisque on pourrait en parler des heures. Hein. Avec comme invité Alain Ferreira et Gérard Oudenot, qui sont tous les deux membres de la commission des cadrans solaires de la Société Astronomique de France. Juste avant cette pause musicale, justement, je parlais des différents aspects, parce que c'est vrai que, souvenez-vous, pour les auditeurs qui sont fidèles à cette émission, vous savez que chaque été, je propose la formule été d'À toi les étoiles, qui consiste à délocaliser l'émission et vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique, et vous vous souvenez que cet été, au mois de juillet, je vous ai fait découvrir le parc Ludiver, où on peut voir différentes variétés de cadrans solaires. On en avait parlé d'ailleurs un petit peu dans cette émission de la formule de l'été. Alors, Monsieur Ferreira, justement, qu'est-ce qu'on peut trouver comme sorte de forme ? Et pourquoi, justement, il y a différentes formes de cadrans solaires ?
Les formes, si vous voulez, il faudrait faire un petit peu un aspect historique, qui sont, donc, par exemple, les cadrans romains qui voulaient représenter la sphère céleste, et donc, ils étaient creusés dans une demi-sphère, ou un quart de sphère, ou un morceau de sphère, vous voyez. Mmh. Et ça, on trouve, par exemple, le fameux cadran de Carthage qui est exposé au Louvre, qui est absolument magnifique. Gérard Oudenot a dit au début que quand vous avez interrogé sur l'aspect les plus vieux cadrans, les plus anciens cadrans, ils ne servaient pas à lire l'heure. C'est vrai, mais ils ont été utilisés essentiellement pour l'astronomie et puis aussi pour la religion. Par exemple, on peut trouver sur les églises romanes, il y en a beaucoup en France, on peut trouver des cadrans qui n'indiquent pas l'heure. Il y a un style, il y a des lignes horaires, mais elles indiquent les heures de prière. Hein. Bon, par exemple, elles indiquent vêpres, prime, tiers, sexte, qui est sexte, qui est l'heure de midi, mais qui est l'heure de la prière de sexte ou de prime au lever du soleil. Voilà. On retrouve ça chez les musulmans. On retrouve ça avec des cadrans, et ça il y en a beaucoup, hein, des cadrans qui sont d'une très très grande complexité et qui donnent les heures de prière, les heures de prière de l'Asr, avec une très très grande précision. Et vous avez même des cadrans juifs qui donnent aussi le moment, exactement l'heure d'allumage du bougie du Shabbat, et puis qui donne les prières exactement l'heure de prière de Minra au moment où elle commence, vous voyez. Donc on a une diversité vraiment, vraiment incroyable. Alors ça c'est un petit peu pour les idées, je réponds pas trop là aux formes. Quant aux formes, il y a un type de cadran qui est absolument fascinant, c'est ce qu'on appelle les polyédriques. Et là vous avez disons, un bloc de pierre taillé. Donc c'est souvent des moines. Ils vont y consacrer à peu près, je sais pas, 3, 4 ans, 5 ans de leur vie, hein, à faire que ça. Et vous avez des blocs absolument fantastiques, dont un des plus célèbres, c'est celui du Mont Saint-Odile, en Alsace. Vous avez celui d'Annecy, qui est juste à Annecy, juste devant le lac. Vous avez un autre qui est dans la Sarthe, qui est absolument la Gouarie, qui est absolument incroyable. Et puis vous en avez des quantités une quantité invraisemblable, aussi fous les uns que les autres, dans tous les châteaux d'Écosse.
Ah oui.
Donc Écosse, c'est pas un endroit qui est considéré où il y a beaucoup de soleil, vous voyez. Et puis vous en avez un à Bagneux aussi, pas très loin donc, hein, à Bagneux, à la médiathèque, et à propos de ce cadran, il va y avoir une exposition et puis une série de conférences sur le cadran solaire à partir du 10 janvier jusqu'au 15 février. Voilà, donc c'est un cadran vraiment exceptionnel aussi. On sait on connaît pas trop la date, mais on sait il y a des textes qui en parlent en 1718, vous voyez. Et ça fait 4 mètres de haut, hein.
Ah oui. Voilà.
Ah oui, non, c'est mais il y en a pas mal, hein, de ces choses-là, hein. Donc là on a des formes en creux, c'est le bord qui donne qui fait office de style et qui donne l'heure. Enfin c'est fascinant à voir, hein. Il y en a toutes les formes.
Oui, alors justement quand on a préparé cette émission, vous m'aviez montré aussi un cadran en barrage. Sur le barrage, en fait, un barrage de retenue d'eau, hein, et donc. Il y avait des lignes qui avaient été tracées, et c'est l'ombre du bord du barrage, en fait, qui permet de se repérer.
Oui, ça c'est une réalisation de Denis Savoie. Hein. Donc Denis Savoie, c'est le responsable de Cité des Sciences, hein, l'association scientifique.
Oui.
Donc il a créé ça en 2009. Donc il y a eu un accord avec EDF, donc je crois que c'est lui qui l'avait proposé, hein. Et puis il a proposé, mais il savait pas trop comment faire, donc il avait pensé mettre un style, et puis moi, si vous voulez, vous vous mettez sur barrage cadran solaire, et sur internet vous avez les photos, vous avez tout, hein. C'est extraordinaire.
Oui, c'est une idée,
donc,
de cadran un peu
c'est la voûte du barrage de Castillon.
Alors attendez, il, hein, y a monsieur Odéon qui était en train de dire quelque chose. Oui, monsieur,
oui,
Odéon.
Oui.
Oudenau, hein, c'est pas
Oudenau,
bon.
Pardon.
C'est un type de cadran nouveau, en fait. Donc Denis ne savait pas trop comment s'y prendre pour mettre un style, et donc l'idée était de se dire, eh ben, on veut utiliser le rebord du barrage. Et donc le rebord du barrage, il va porter une ombre sur la partie verticale du barrage. Bon, ça peut pas donner un cadran aussi simple, entre guillemets, que ceux dont on parlait jusque-là. Et en fait, l'ombre va tangenter des lignes. Et ça marche, c'est-à-dire que c'est bien vrai pour, à chaque époque de l'année, ça sera toujours les mêmes lignes au même moment. Et donc, on a un nouveau type de cadran grâce à cela. Bon, d'un autre côté, c'est le plus grand cadran qui existe actuellement en France et on peut dire au monde. Hein.
C'est vraiment une performance. Hein.
Oui.
Vraiment une performance.
Alors, on a parlé aussi dans cette préparation d'émission que les cadrans solaires avaient un lien avec les maths.
Oui.
Oui, bah, c'est assez... Bon, en quelque sorte, un cadran solaire... Il découle du mouvement de la Terre sur elle-même. Hein, nous, on voit le Soleil se déplacer, mais en réalité, c'est la Terre qui tourne sur elle-même. Donc, à chaque heure, si on considère le style, hein, qui correspond à l'axe de la Terre, eh bien, à chaque heure, ça va déterminer un plan différent. Le Soleil, lui, éclairera un de ces plans, l'heure d'après, le plan d'après, ainsi de suite, on va obtenir ainsi une rose horaire. Et le cadran, ça sera quoi? Eh bien, ça sera la rencontre de cette rose horaire avec, généralement, le plan du cadran. Donc, pour un cadran horizontal, on voit ce que ça donne, il n'y en a qu'un endroit déterminé, et pour quelque chose de vertical, il y aura autant de cadrans qu'il y aura de plans verticaux différents, c'est-à-dire autant qu'on veut. Hein. Un mur, il peut tourner d'un petit peu, un peu plus, ainsi de suite. Et donc tout ça va nous définir un grand nombre de cadrans, dont en particulier les fameux cadrans polyédriques, hein, puisque là on va regarder sur des plans déterminés par des polyèdres. Mmh. Bon, ça, le principe est extrêmement simple. Après ça, il va falloir le calculer, c'est-à-dire faire des projections, hein, à partir de la sphère céleste. Bon, bah c'est de la mécanique, de la trigonométrie sphérique, pas très compliquée. Hein. Un élève de terminale sait très bien faire ça. Hein.
Oui.
Et puis alors là, c'est pour les cadrans qu'on appelle classiques. Il y en a d'autres. On disait qu'il y a des multitudes de cadrans. Par exemple, il y a le cadran analématique, où là, on va voir une surface plane en général, et sur cette surface, on va faire se déplacer un style qui, lui, sera vertical. Et, suivant l'époque, il faudra déplacer ce style d'une quantité déterminée à l'avance, qui est marquée en règle générale sur le plan, et l'ombre de ce style donnera l'heure. C'est donc quelque chose d'assez différent, et ça simplement pour dire que c'est une autre forme de cadran, et qu'il en existe encore de très nombreuses. Hein. Bon, je ne vais pas me lancer là-dedans, parce que on y serait encore demain.
Hein.
Mais voilà, des cadrans, il y en a autant qu'on veut. Hein.
Depuis le nombre d'années que... Gérard Rouneau, et puis beaucoup plus longtemps que moi et moi-même, je veux dire, il n'y a pas eu, je sais pas moi, deux mois où je me dis, mais c'est pas vrai, ils ont fait un truc comme ça. C'est extraordinaire. Mais on est toujours surpris. L'histoire du barrage, c'est complètement fou.
Oui, là, c'est vrai que quand je suis tombé sur cette image...
J'en ai vu un autre à Palma. À Palma, c'est une petite chaînette. Vous voyez, c'est un cadran vertical. Il y a une petite... Alors, c'est parti d'une histoire... D'un type de cadran qui a été inventé par un Allemand, qui s'appelle le bifilaire. On a deux lignes qui se croisent, qui sont pas dans le même plan que, qui sont au-dessus du cadran s'il est horizontal, hein. Et puis, c'est le croisement de l'ombre de ces deux tiges qui donne l'heure. Avec précision. Donc, déjà, on est dans trois plans différents, vous voyez, hein. Alors, il y a un Espagnol, hein. Raphaël Gaya Soler, qui a construit un cadran, mais pas en utilisant des tiges droites qui se croisent, mais des courbes. Donc, il en a fait pas mal, il en a fait quelques-uns, qui sont des monuments, hein, il y en a à Barcelone, mais c'est des monuments sur la plage, ils sont immenses. Et puis, il en a fait un avec une chaînette, une petite chaîne, carrément, qui est accrochée, et donc ça, c'est quasiment... Bon, ça peut pas être horizontal, mais oui, c'est à peu près dans ce plan-là. Et puis, il fallait que ça croise quelque chose de vertical. Eh ben, il a fait croiser verticalement un jet d'eau.
Ah, d'accord.
Et c'est le croisement des deux ombres qui donne l'heure. Et ça marche, et ça donne l'heure. Donc, vous voyez, le truc de fou.
Ah oui,
mais on pourrait faire un inventaire comme ça, sans arrêt. C'est quelque chose de... C'est vraiment le... Allez, on délire, on fait des... je sais pas, à Rome, par exemple, il y a deux endroits, il y a le Palacio Spada, et puis il y a le... comment il s'appelle, la Trinité des Monts. Eh bien, on est dans une grande salle, il y a le plafond voûté, sur le côté, il y a un petit trou qui amène l'heure, qui se réfléchit dans un miroir, et on a tout le plafond qui est tracé avec à peu près une quarantaine de lignes.
Ah oui.
Vous imaginez ça? Et ça date 18e siècle. Et tout est en fresque, avec de toute beauté, je veux dire, avec des couleurs, avec des dessins, c'est magnifique. Quand on voit ça, on met 2 minutes à peu près à se repérer, quand on connaît bien le cadran, vous voyez.
Oui.
Non, c'est vraiment... Vraiment, je pense que dans l'imagination, je n'ai jamais été aussi étonné que par le cadran solaire.
Ah, il y aurait encore donc beaucoup de choses à dire, mais on arrive malheureusement au terme de cette émission À toi les étoiles. Et avant de conclure, je demande toujours aux invités de faire un mot de conclusion. Donc le mot de la fin, je vais vous laisser chacun votre tour dire le mot de la fin. Mais avant cela, ça va vous laisser comme ça un petit peu de temps pour réfléchir à ce que vous allez dire. Je voudrais ouvrir de nouveau une petite parenthèse en cette fin d'émission pour donner des idées cadeaux, puisque j'ai un auditeur qui s'appelle Damien, qui m'a écrit, qui m'a dit voilà, je voudrais offrir un cadeau de Noël pour mon papa, mais quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Eh bien, je me suis dit tiens, je vais donner comme ça l'idée à l'antenne, et puis ça pourrait donner aussi des idées pour les d'autres auditeurs. Alors au niveau des livres, par exemple, le livre Embarquement pour Mars, 20 défis à relever de Jean-François Pellerin, qui est sorti, si je me trompe pas, cet été. Il y a aussi, on en a parlé en début d'émission, Alexandre Ananoff, l'astronome méconnu, par Pierre-François Mouriot et Philippe Varnotto. Le DVD C'est fou d'astronomie, on en a parlé lors de la dernière émission, vous vous rappelez, hein. Il y a aussi Une nuit insolite en astrobulle au cœur de la nature, c'est proposé par la Ferme des Étoiles, ou encore Dormir à 2788 mètres d'altitude au pic du Midi. On a également Savouré un dîner au veillé, dîner veillé aux étoiles, prendre les commandes d'un avion au cours d'un week-end aéronautique, et beaucoup d'autres idées cadeaux sur le site web fermedesétoiles.fr ou au 05 62 06 09 76 05 62 06 09 76. Et puis sachez aussi que l'ESA organise un jeu pour inviter à célébrer la sortie d'hibernation de Rosetta, qui aura lieu le 20 janvier prochain à 11h, en participant à un concours vidéo de fabuleux prix à gagner. Pour participer, rien de plus simple, filmez-vous en train de crier Wake up Rosetta, qui veut dire en français Réveille-toi Rosetta, et postez votre vidéo sur la page Facebook dédiée. Très rapidement, Monsieur Ferreira, un mot de la fin.
Moi, je ne peux qu'engager les gens à découvrir les cadrans solaires, quel que soit l'endroit où il habite, il y en a, et faire même du tourisme scientifique, hein, c'est faire du tourisme scientifique, et même dans quasiment tous les pays du monde.
Hein. Merci beaucoup. Bon,
voilà.
Merci beaucoup, Monsieur Oudonneau, en 30 secondes.
Voilà, eh bien, moi, je dirais que je m'intéresse aux cadrans solaires depuis près d'un demi-siècle, et je ne m'en suis jamais lassé. Et je trouve toujours des choses nouvelles.
Merci beaucoup à vous deux pour votre participation. Pour en savoir plus, le site internet, c'est commission-cadran avec un S-solaire avec un S.fr. Dans un instant, vous allez retrouver le journal de Radio France Internationale, suivi du Mag Music avec Toff. Quant à moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, et je vous donne rendez-vous le mercredi 15 janvier 2014 pour la première émission de l'année 2014. Au revoir à tous et merci aux invités.
Oh, oh, oh. Joyeux Noël.
IDFM vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. IDFM, 98 FM en Ile-de-France.